Aujourd'hui, c'est la fête, pour ainsi dire, de Saint-Martin de Porres et de plusieurs saints dont j'aimerais bien vous parler, comme Saint-Hubert, évêque belge, qui est mort en l'an 727. C'est aussi la fête d'un saint Pirmin qui est assez intriguant, de la même époque, qui était évêque et abbé en Allemagne, et puis le bienheureux Pierre-François Néron, lui qui est mort il y a à peine 135 ans. C'est un prêtre martyr, un prêtre des missions étrangères, qui a été extrêmement courageux dans sa mort. On ne sait plus quoi faire, mais c'est aussi demain l'anniversaire du décès de quelqu'un dont tout le monde a à peu près entendu le nom et qui a vécu durant ce siècle-ci. C'est Alexis Carrel, le docteur Alexis Carrel, dont je vous ai parlé brièvement le 8 septembre dernier à l'occasion de la narration que je vous avais donnée du grand miracle de Lourdes dont avait été l'objet Marie Bailly. Et ce miracle, observé par le docteur Alexis Carrel, prix Nobel, a suscité chez lui la conversion profonde, mais pas totale. J'aurais des réserves à faire sur certains de ses écrits, hein. Comme réflexion sur la conduite de la vie, j'ai des réserves. Je ne suis pas le seul à avoir des réserves d'ailleurs. C'est la fête aussi de Saint-Martin de Porres, dont je voudrais vous dire quelques mots. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Saint-Martin de Porres, c'est vraiment le saint qui nous inspire des sentiments profonds d'antiracisme. Nous ne pouvons lire sa vie que de voir combien il est ridicule de considérer que quelqu'un, parce que sa peau est d'une couleur différente, serait inférieur à quelqu'un d'autre. C'est absolument insensé. Ça ne tient pas pour deux sous. Car Saint-Martin de Porres, qui est né en 1579, est mort à 60 ans en 1639, a souffert de cette sorte de racisme assez souvent durant sa vie, car il était noir. Il était vêtu au début comme un esclave. Il ne cherchait pas sa véritable identité. Il savait d'ailleurs, il le savait d'où il venait. Sa mère était une pauvre mulâtresse elle-même. Elle s'appelait Anna Velasquez. Et au registre des baptêmes, comme son frère qui l'avait précédé, de la même mère, il est inscrit de père inconnu. Mais Martin savait qui était son père. C'était un chevalier. Un chevalier très réputé et très noble, qui s'appelait Juan de Porres. Au couvent des Dominicains, Martin de Porres est venu implorer un emploi de domestique. Les bons pères l'ont accepté, lui ont accordé, puisqu'il n'avait, pour ainsi dire, aucune instruction, lui ont accordé la dernière place. Il est même arrivé que certains dominicains le lui ont fait sentir. Après tout, à l'époque, hein, c'était juste. Il était de naissance très obscure. Il n'y avait même pas de méchanceté dans le cœur de certains de ces dominicains parce qu'il y avait un petit mouvement de vanité de leur part. Et puis, il était de père inconnu. Et c'était considéré un peu comme un enfant du péché. Vous vous souvenez de ces expressions insensées, ridicules, enfant du péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Absolument. J'en reviens pas que des gens puissent utiliser des formules pareilles, penser dans ce sens-là, quand on connaît Jésus-Christ, qu'on connaît l'Évangile. Alors, le pauvre Martin de Porres, frère dominicain, était très, très populaire à l'hôpital. Les blessés, les malades guettaient son passage. Ça arrivait des fois qu'un pauvre qui était trop souffrant, exaspéré par la douleur, ne retenait pas sa langue et lui le traitait de chien de mulâtre. Un peu comme aux États-Unis, peut-être même ici, on a traité comme ça des gens dont la couleur est sombre, brune ou noire. C'est affreux, affreux. Il ne possédait rien. Il ne possédait rien, ce pauvre. Il était très généreux, très attentif. Sa nuit, il la passait en grande partie en prière. Il se reposait surtout sur un banc de la salle du chapitre du couvent des Dominicains. Mais il avait des amitiés réelles, des amitiés profondes qui se sont nouées entre lui, simple frère convert, comme on disait autrefois, et des prêtres et même des prélats qui allaient le consulter plus ou moins secrètement, un peu comme dans l'Évangile, on voit Nicodème, ce juif extrêmement important qui allait consulter secrètement Jésus. Le petit rabbin Jésus, le petit, c'était un laïc Jésus, c'était pas grand-chose aux yeux de ces grands prêtres. Le zèle de Martin de Porres, évidemment, débordait la limite de son couvent. Hein. Et quand Martin a usé toutes ses forces, il s'est appliqué encore jusqu'à sa mort à faire le catéchisme aux petits noirs, qui étaient évidemment ses amis. Les théologiens étaient stupéfaits et admiraient cette science qui sortait de sa bouche comme si l'esprit d'amour sortait par sa bouche, car il était habité par l'Esprit Saint, esprit d'amour. Un jour, on dit qu'il a arrêté l'élan d'un taureau furieux qui terrifiait une foule qui était apeurée. Et il avait de l'humour, car on raconte, écoutez bien ça, et je trouve ça charmant, même si c'est pas vrai, qu'il a donné à boire dans la même soucoupe à un gros chat et deux petites souris. Je trouve ça bien charmant. C'est peut-être pourquoi on l'invoque pour chasser les rats et les souris qui dérangeraient des foyers où on n'aime pas tellement les petites souris. Et en 1837 seulement, il a été proclamé bienheureux. Lui qui était décédé en 1639. Il a fallu attendre jusqu'au 6 mai 1962 pour que notre bon pape Jean XXIII le canonise. On peut le prier en deux mots. Ô vous, Saint Martin de Porres, homme de couleur, très cher et simple saint, délivrez-nous du racisme. Et maintenant, nous passons au docteur Alexis Carrel. J'aurais aussi souhaité vous parler de Giorgio Lapira, le maire de Florence, cet homme admirable, Giorgio Lapira, qui est mort le 5 novembre 1977, mais ce sera pour l'année prochaine. En 1935, il parut un livre qui s'appelait « L'homme », qui avait pour titre « L'homme, cet inconnu ». C'était un grand succès de librairie. C'est un livre d'Alexis Carrel. Il a été traduit dans toutes les langues. Et on peut dire que l'espèce de vieux matérialisme bourgeois, en particulier celui d'Ernest Renan, qui avait été déjà pris à partie par Bergson, Henri Bergson. Mais dans ce livre, il recevait le coup de grâce. Et c'est pas n'importe qui, d'un physiologiste, Alexis Carrel, prix Nobel, un médecin, un chirurgien, universellement célèbre, et entré dans la légende. Alexis Carrel, c'est un Lyonnais, né à Lyon-Con, à Sainte-Foy-les-Lyon, en juin 1873. Sa vie passait là ses vacances, mais habitait le reste de l'année à Lyon, avec sa mère, ses deux cadets, Joseph et Marguerite. Le père était un industriel. Il est mort quand Alexis n'avait que 4 ans. Sa mère s'est consacrée à l'éducation donc de ses 3 enfants et était secondée par ses frères, qui appartenaient à la bonne bourgeoisie de Lyon. C'était un milieu aisé, cultivé. Alexis a terminé ses études chez les Jésuites de la rue Sainte-Hélène à Lyon, puis a commencé ses études médicales à la faculté, évidemment, de Lyon. Et alors, c'est un élève brillant, très personnel, était doué d'un sens d'observation extraordinaire. Des amis disaient, il a des yeux jusque derrière la tête. Et pourtant, ce jeune penseur, qui ne s'en laisse pas imposer, sur le terrain scientifique, sait tenir tête à ses maîtres, va subir, comme ses contemporains, Charles Nicolle, le comte d'Unouy, qu'on lisait avec grande avidité autrefois, hein, ben, il va subir, comme tous ces gens-là, l'influence matérialiste du milieu. Alors, le résultat, bien, c'est que, après quelques années d'études médicales, Alexis Carrel a perdu la foi. Il est devenu un scientiste convaincu. Il affirme « Nulle certitude n'est valable en dehors des faits scientifiques constatés. » Les scientistes disent ça, pas les scientifiques, hein, je spécifie bien. Les scientistes, c'est une façon de penser, d'interpréter le monde. Or, les scientistes affirment tous « Nulle certitude n'est valable en dehors des faits scientifiques constatés. » Alors, ces grands problèmes humains qui n'ont cessé de tourmenter tous les hommes et les femmes depuis toujours, Dieu, l'âme spirituelle et immortelle, les miracles, quoi, aussi. Vous en avez raconté un, n'est-ce pas, qui a converti Alexis Carrel le 8 septembre dernier. C'était fantastique, hein. C'est pas parce que j'ai fait l'émission, mais c'était merveilleux, cette émission. Et alors, même aussi les 10 commandements de Dieu. Tout ça, mais c'était considéré par ces gens-là comme de pures hypothèses, dénuées de valeur rationnelle, comme on dit. Mais il va l'avouer dans un livre qui paraîtra après sa mort, Le Voyage de Lourdes. Carrel a beau affirmer son agnosticisme à ce moment-là, quand il était jeune, son cœur, sa raison proteste, parce qu'il se trouve plongé ou exilé, si on peut dire, dans un désert. Hein? Je vous ai déjà parlé de ça, le désert des agnostiques et des athées, c'est terrible. On n'a pas à les blâmer. On n'a pas à les pointer du doigt. On n'a qu'à penser jusqu'à quel point ça ne doit pas être facile de vivre quand on ne croit à rien. Alors, il lui faudra 40 années pour retrouver, si on peut dire, ce trésor qu'il sacrifie comme ça. Que de temps perdu que j'aurais pu employer si utilement, dira-t-il plus tard. Et puis 12, dans son radiomessage à l'Action catholique portugaise, a développé la même pensée. Pie XII disait, on le répète aujourd'hui, nos évêques le disent, hein, ôter l'instruction religieuse, une instruction proportionnée évidemment aux possibilités de chacun, bien la formation scientifique la plus parfaite sera absolument insuffisante à protéger et à protéger la foi. Or, Carrel, alors que son appétit scientifique n'était jamais rassasié, il faisait aborder volume sur volume, il multipliait les expériences, il consultait les savants, les spécialistes. Il ne paraît se désespérer que d'une science, de la science essentielle, comme il l'a constaté dans ses écrits. C'est la science de l'homme, de l'âme, de Dieu, de notre destinée. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre, hein? Et alors, son information demeurera toujours là-dessus, celle d'un bon petit écolier qui a appris son catéchisme de première communion et puis qui cherche rien d'autre. Il ne sait pas où se renseigner, on dirait. Et à côté des maîtres de la médecine, ben, il aurait dû avoir sur sa table de travail, il me semble, les meilleures pages de Saint-Augustin, pourquoi pas. Un bon ouvrage de théologie, comme il y en a aujourd'hui, qu'on lise simplement « Joie de croire, joie de vivre » du père François Varillon. Quel beau livre! Ou bien « Le guide des difficultés de la foi catholique » du père Découvement. Ce sont des livres récents, très bien faits. Il y en avait dans son temps. Il aurait pu lire Une bonne vie du Christ, mais rien, rien. Il ne lisait rien de ça. Mais pourtant, il me semble que dans une époque où le positivisme ou la négation de la foi était si répandue, pourquoi ne cherchait-il pas? Le comte de Nouy, c'est son nom de famille, hein. Le comte, c'est L-E-C-O-M-T-E, c'est pas un comte. Alors, le comte de Nouy a écrit « Nos maîtres matérialistes nous ont menti ». Un peu comme on a entendu au Parlement ces jours-ci, n'est-ce pas? Menti, oui, le mot est dur. Et Carrel, au sommet de sa carrière, va faire la même constatation. En attendant, bien, il absorbe, lui qui se sent bien indépendant, ce que lui présentent ces gens qu'on pourrait appeler des sectaires, j'aime pas le mot, mais c'est tout ce qu'on peut dire, ceux qui n'affirment qu'il n'y a rien, ils se préoccupent pas de leur opposer quoi que ce soit. Le grand malheur, en somme, de cette génération, c'est ça. Et c'est encore un peu ça aujourd'hui, ça l'est comme ça à Montréal et au Québec, au Canada, aux États-Unis, un peu partout. En somme, notre génération, puis nos générations, se sont laissées voler leur foi, la foi, sans songer à la protéger, à la défendre. C'est ce qu'on essaie de faire ici à Radio Ville-Marie. Et en 1903, âgé de 30 ans, Alexis Carrel, docteur en médecine, professeur d'anatomie à la faculté de Lyon, il accepte d'accompagner un jour à Lourdes un train de malades. C'est ce que je vous ai raconté le 8 septembre, mais je le rappelle brièvement. C'était pour lui une corvée, comme il l'a dit. Mais il s'agissait de remplacer de ses collègues médecins qui étaient empêchés, puis il voulait lui rendre service, quoi. Puis d'ailleurs, il dissimulait pas sa mauvaise humeur, il était même heureux de prendre cette occasion pour critiquer de près les faits qu'on disait qui s'opéraient à Lourdes. Il voulait montrer que tout ça était faux. Les catholiques parlent de miracles, ha ha ha. Évidemment, ils se trompent, hein. Alors, des maladies nerveuses ont pu être plus ou moins guéries par le fait de la suggestion qui se dégage d'une foule en prière. Hein. Le docteur Jean-Martin Charcot, qui était mort, avait bien analysé les maladies nerveuses, et puis il avait bien dit que tout ça, les miracles, ça n'existait pas. On disait qu'il en avait fait des miracles lui aussi, dans le sens qu'il avait guéri des malades pour être plus ou moins mentaux. Et puis on disait que les fakirs aussi faisait des miracles, les fakirs en Inde. Mais il y a autre chose. Un camarade de collège qui fait le même pèlerinage, elle lui dit qu'il y a des cas de cancer, de lupus, de tuberculose, de luxation, de fracture, de la cécité congénitale, et qui ont été guéris. Et ça, le bureau des constatations par des médecins de tous les pays à Lourdes, croyants et incroyants, les ont étudiés, puis ils l'ont dit. Alors Carrel disait impossible, impossible. Les constatations ont dû être mal faites avant, pendant et après, car le miracle n'a pas été jusqu'ici constaté scientifiquement. Il est d'ailleurs absurde, car les lois de la nature sont immuables. Certes, aucun argument ne peut rien contre la réalité d'un fait, disait-il aussi. Qu'on me mette en présence d'un fait et je m'inclinerai. Alors son rôle se bornera donc à être, à Lourdes, un bon instrument, enregistreur, qui fait abstraction de ses opinions. Bon, il est honnête. Hein? Après son retour, il va conclure. Hein? Dans son ouvrage, publié par sa femme après sa mort, Le Voyage de Lourdes, le docteur Alexis Carrel, sous le pseudonyme de son nom renversé, au lieu d'écrire Carrel, il a mis Lerac, L-E-2-R-A-C, hein? Il raconte avec beaucoup d'humour son pèlerinage, puis il en décrit les personnages, le vicaire général, la dame patronesse, les curés, les infirmières, puis tous ces pauvres malades qui, au chant des Ave, 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 Ave Maria, vont demander leur guérison. Mais son attention est attirée par une malade, une agonisante, une jeune femme. Il l'appelle Marie Ferrand. Je vous l'ai dit le 8 septembre dernier, son vrai nom c'était Marie Bailly. Hein? Et elle est atteinte de péritonite tuberculose, tuberculeuse, au dernier stade. Et les parents sont morts tuberculeux d'ailleurs. Les chirurgiens ont abandonné cette patiente-là. Ils ont refusé de l'opérer. Alors Carrel, lui, il examine de près la mourante, puis il confirme pleinement le diagnostic de ses confrères. Il déclare à son ami, écoutez bien ça, « Je crains qu'elle ne meure entre mes doigts. Si celle-là guérissait, ce serait vraiment un miracle, et je croirais à tout, et je me ferais même moine. » Oh là là, mais Dieu va répondre à son défi, et vous le savez, vous qui m'avez écouté le 8 septembre, à leur arrivée à Lourdes, Marie Ferrand, mais enfin Marie Bailly, se meurt. Car elle la soigne, note scrupuleusement l'évolution du mal, et déconseille un bain aux piscines, hein, qui normalement la tuerait. Vous savez, il y a des piscines à Lourdes, là, puis ils saucent, comme on dit, les malades là-dedans. Il y en a qui sortent de là guéris. Alors, on se contente de quelques lotions, puis on transporte la mourante sur un brancard devant la grotte. Et la grotte où est apparue la Sainte Vierge, hein, à Lourdes. Carrel l'accompagne avec son camarade. Il murmure, « Ah, que je voudrais, comme tous ces malheureux, croire que vous n'êtes pas seulement une fontaine exquise, créée par nos cerveaux, ô Vierge Marie. Guérissez donc cette jeune fille. Elle a trop souffert. Permettez-lui de vivre un peu. Et faites-moi croire. Et soudain, Alexis Carrel se croit halluciné, car sous ses yeux, la mourante, quoi, elle ressuscite. Ses traits se colorent et le pouls devient normal. Le ventre, qui est extraordinairement ballonné, diminue peu à peu sous ses yeux. Alors avec son stylo, Alexis Carrel note l'heure exacte sur sa manchette. Il est 2h40 de l'après-midi. Puis à 3h, la résurrection est un fait accompli. Et on lit dans son livre que Marie Ferrand, Marie Bailly, déclare « Je suis guéri ». Alors on lui donne une tasse de lait. La douleur, la tuméfaction ont disparu. Alors Alexis Carrel se trouve en face d'une mourante redevenue normale, seulement affaiblie. Il est 4h maintenant. Alors Carrel écrit « C'était la chose impossible, c'était la chose inattendue, c'était le miracle qui venait de se produire ». Alors minutieusement, au cours de la soirée et de la nuit, il étudie le cas, il note les détails. Et deux autres médecins ajoutent leur constatation aux siennes. Il interroge la miraculée « Qu'allez-vous faire à présent ?» Et elle lui répond « J'irai chez les religieuses de Saint-Vincent-de-Paul. Vous savez, ces sœurs avec les grandes cornettes blanches, avec le costume bleu, les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. » Et elle lui dit « Je serai reçu par elles et je soignerai les malades. » Alors, à la fois heureux et ennuyé de son aventure, Alexis Carrel, après avoir erré dans la nuit, là, il est angoissé, évidemment. Alors, il pénètre dans la basilique de Lourdes, plus ou moins affreuse basilique entre nous. Hein. Il s'assied à côté d'un vieux paysan. Il a la tête dans ses mains, prononce cette prière, c'est ce qu'il écrit dans son livre. « Vierge douce, secourable aux malheureux, qui vous implore humblement, gardez-moi, je crois en vous. Vous avez voulu répondre à mon doute par un miracle éclatant. Et je ne sais pas le voir et je doute encore. Mais mon plus grand désir et le but supérieur de toutes mes aspirations est de croire. Et ce n'est pas encore la conversion, c'en est la préparation lointaine. Alexis Carrel, il faudra de longues années et bien des recherches et des souffrances pour se libérer, vous verrez tout à l'heure. » Alors on l'a vu à Lourdes, être le témoin d'un miracle. Mais qu'on sache bien, un miracle en soi, ça convertit pas quelqu'un, ça. Ça aide, ça le met sur la route. Il faut une action de l'Esprit Saint au fond du cœur. Quand on y pense, dans l'Évangile, la résurrection de Lazare, c'est pas n'importe quoi. Ça ne convertit pas les pharisiens. La constatation de miracles éclatants, ça n'a jamais converti Émile Zola, à l'époque. Et encore, aujourd'hui, pensez-y, c'est la même chose avec de grands athées. Mon Dieu, j'en ai rencontré de très grands athées. On a beau leur parler des choses les plus merveilleuses, rien à faire. Une conversion, en somme, c'est le fait de la grâce, au fond. Hein? C'est une grâce particulière de Dieu. C'est l'action de l'Esprit Saint qui respecte la liberté et qui suppose, au fond du cœur, une prière très, très humble. En somme, je le dirais en deux mots, il faut se jeter à genoux, quoi. Au besoin, au fond d'un confessionnal, ou simplement chez soi, en criant vers Dieu. Tout le scientisme qui règne depuis quelques siècles a commencé par nier les miracles, la possibilité des miracles, au nom des lois immuables, comme on dit, de la nature. Le positivisme du siècle dernier a été délogé de ses positions. Il s'est tourné vers la thèse qu'on voit très souvent aujourd'hui, des forces inconnues, les forces secrètes. On fait même des espèces de grands, des semaines, des choses étonnantes. Il y a même des émissions à la télévision qui sont absolument bracadabrantes sur toutes sortes de forces inconnues. C'est souvent intéressant, mais on exagère, hein, on part dans toutes sortes de sentiers. Il est bien vrai que nous ne savons pas tout, c'est sûr. De fait, nous savons le tout de rien. Hein? Nous savons pourtant quelque chose. Sinon la médecine, mais la science, ce serait de la charlatanerie. Hein? La science nous enseignait des vérités fondamentales. Nous savons que 3 gouttes d'eau naturelle ne suffisent pas à rendre la vue à un bébé aveugle de naissance. On sait que des gens prennent de l'eau naturelle de Lourdes ou de l'eau bénite et font une petite croix sur les yeux d'un bébé aveugle qui retrouve la vue. Les miracles sont enregistrés. Alexis Carrel n'a pas compris non plus la vraie nature du miracle. Le miracle, c'est pas une explosion de la toute-puissance divine. C'est très important. C'est pas ça. C'est un signe, un humble petit signe par lequel Dieu répond à nos appels. C'est comme si Dieu disait dans un miracle, « Je suis là, je suis là, je vous vois, je vous écoute. » C'est saint Augustin qui disait, « Rendre la vue à un aveugle, multiplier 5 pains pour nourrir 5 000 hommes, être un moindre prodige, c'est un prodige plus simple au fond, que faire lever les moissons, comme on les a vus lever là, durant les derniers mois. C'est un moindre prodige, dit saint Augustin, que de faire naître avec leurs yeux des milliards de vivants. Quand vous voyez un petit insecte avec ses yeux qui voit, il y a plus forte raison quand vous voyez votre enfant qui voit. C'est un miracle. Des oreilles qui entendent, un cerveau qui pense. Des êtres qui s'engendrent les uns les autres. Mais l'accoutumance rend nos esprits superficiels insensibles à ces faits. Nous voyons des miracles quand nous nous regardons dans un miroir. C'est un miracle. Et nous ne le voyons pas. C'est pourquoi Dieu accomplit des petits prodiges comme ça. Des petits miracles. Oh, on les appelle des grands miracles. Mais c'est en fait de petits miracles comparés à nos propres existences. Ça frappe notre attention parce que c'est un caractère exceptionnel. Il faudrait bien distinguer les vrais miracles des faux aussi. Hein? C'est ce qu'on fait à Lourdes. Alors, il y a des espèces de phénomènes diaboliques, évidemment, qui se font de temps en temps. Amoral, immoral. Hein? Ces phénomènes-là, c'est amoral, c'est immoral. Mais les miracles authentiques ne tendent, eux, qu'à la conversion du cœur, à la sanctification de ceux qui en sont témoins, et non pas des espèces d'exaltation abracadabrante. Alors, rentré à Lyon, Alexis Carrel, après le choc de Lourdes, y prépare son concours de chirurgien des hôpitaux. Dans un article loyal, et au cours de plusieurs conversations avec certains des professeurs, ces juges là, du demain, il expose les faits dont il a été témoin à Lourdes. Alors on lui dit miracle, mais ce sont des jeux de forces inconnues. Il ne formule aucune conclusion, pourtant, mais ses interlocuteurs sont des sectaires, comme on les voit souvent. Il lui déclare, inutile d'insister, monsieur. Avec des idées pareilles, vous n'avez rien à faire parmi nous. Il le chasse. C'est incroyable. Un second incident devant ses examinateurs, Carrel a l'audace d'exposer sa première grande découverte relative à la suture des vaisseaux sanguins. Vous savez, la terre d'un chien, il l'a tranchée. Et au lieu d'emboutir les deux bouts, comme le pratiquent ses professeurs, Alexis Carrel est recalé, à l'unanimité même. Mais il a du caractère. Si la faculté de Lyon le repousse, il part pour les États-Unis. En mai 1904, et là, il est accueilli à bras ouverts aux États-Unis. Il est choisi à l'unanimité pour diriger le laboratoire de chirurgie expérimentale de l'Institut de recherche médicale fondé par Rockefeller lui-même. Il y multiplie les découvertes sur la survivance des cellules et la réparation des tissus par la greffe. Alors on voit tout à coup qu'un chat vit avec le rein d'un autre chat, un chien qui marche avec la jambe d'un autre chien, un cœur de poulet placé dans un bocal, aspergé par un liquide nourricier, vit de 1912 à 1940, durant 28 ans quoi, puis il meurt alors de vieillesse. En somme, en 1912, le prix Nobel récompense ses découvertes. C'est pas n'importe quoi, après 8 ans aux États-Unis. Et en 1914, c'est la guerre, alors Alexis Carrel, qui est bien français, retourne à Lyon. Il veut servir son pays. Mais les mandarins, eux, de la médecine, n'ont pas des armées. Alors, il est infirmier en... il est enfin appelé, grâce à l'intervention des États-Unis, à diriger l'hôpital fondé à la lisière de la forêt de Compiègne par Rockefeller. C'est là que le comte de Nuit va devenir son collaborateur. Alors là, les découvertes se poursuivent. Et ces deux maîtres, après avoir imposé l'usage de la teinture d'iode, se ravisent. Parce que cet antiseptique détruit les microbes, détériore les tissus. Alors, faut faire la guerre à l'iode, et Alexis Carrel compose alors cette espèce de liquide qu'on appelle le liquide Carrel, qui détruit les microbes tout en épargnant les tissus. Et par ce liquide, par la greffe aussi, la greffe dermique, Carrel et ses disciples vont sauver des milliers de blessés. Mais cela ne désarme pas ses adversaires. Hein. Ça lui révèle la vanité de l'opinion. Les succès purement humains aussi, ça le dégoûte. Et la guerre terminée, il regagne les États-Unis. D'où il va revenir en avion se mettre de nouveau au service de son pays, en 1939, à l'autre guerre. Le gouvernement du maréchal Pétain va faire appel à son dévouement, va lui confier en 1941 la création et la direction d'une œuvre strictement scientifique qui s'appelle l'Institut de la science humaine. Alors c'est à l'enfance, à la jeunesse débilitée que l'Institut se consacrera de préférence. Et à la libération, en 1945, quelques super patriotes, non contents de supprimer son Institut, vont traiter Alexis Carrel en suspect. Ben oui, il avait été appelé par le maréchal Pétain. Ils vont lui faire expier son activité désintéressée, qu'il a déployée au service de sa patrie, de sa France. Et sa santé, qui est déjà précaire, ne résistera pas à cette épreuve. Mais l'injustice des hommes l'aura aidé à se détacher de son moi, de son égo. Et entre les deux guerres, Carrel avait acquis sur le rivage de la Bretagne l'île, ou un petit îlot, qui s'appelle Saint-Gildas. Vous vous souvenez du colonel Lindbergh, là, cet aviateur très célèbre, qui avait réalisé le premier la traversée de l'océan Atlantique? Mais il va le rejoindre en des circonstances absolument tragiques, car au lendemain de son grand raid, là, à Lindbergh, un des gangsters, vous vous souvenez, il lui avait volé son petit enfant, il l'avait tué, alors... L'aviateur a retrouvé le cadavre de son fils dans un buisson en fleurs. Et c'est alors qu'il avait crié vers Carrel, Alexis Carrel, « Sauvez-moi du désespoir ». Et le savant a appelé auprès de lui Lindbergh, qui a acquis un îlot juste à côté. Et puis il est devenu le collaborateur de Carrel. Lindbergh avait cru aussi que l'on pouvait se passer de Dieu. Il va revenir à la foi. Il va exprimer son retour aux idées spiritualistes dans un article retentissant où il déclare « Nous devons apprendre à appliquer les vérités de Dieu aux actes humains et à l'orientation de notre science. » À ce retour à l'idéal chrétien, c'est la foi, cause et effet des conversations entre Lindbergh et Carrel. Mais c'est un fait plus important encore dans sa vie. Il y a donc Alexis Prez dont on parlait beaucoup, ce fameux abbé du monastère cistercien de Bochem. C'était voisin de l'îlot de Saint-Gildas où était Alexis Carrel. Et Alexis dont Alexis, comme on disait, est devenu en 1937 l'ami et le confident d'Alexis Carrel. Déjà aux États-Unis, Carrel avait eu plusieurs conversations intimes avec un jésuite, le père Clifford, à qui est dédié d'ailleurs l'homme cet inconnu. Parce que c'était très long la conversion de Carrel. Alexis Prez, cistercien, mais Carrel expose ses difficultés. Il lui paraît impossible de concilier tel dogme catholique avec les conclusions de la science. Probablement qu'il y avait des difficultés avec le problème du péché originel. Hein? Mais aujourd'hui, si vous lisez bien les livres que je vous ai mentionnés tout à l'heure, vous verrez que on n'est pas obligé de croire à des choses incroyables. Alors donc... Alexis lui répond, il s'agit pas là de dogmes, mais de théories et d'hypothèses libres. Alors, il faut faire attention dans la foi. Hein. Alors, c'était pour le savant sa libération. Alors, il a commencé à prier vraiment. Et puis, il touche à un point névralgique au curé de sa vie. Comme M. Jourdain, chez Molière, là, qui faisait de la prose sans le savoir, bien lui, il fait constamment de la théologie et de la philosophie sans le savoir dans ses livres. Or, il lui manque, on pourrait dire, une formation philosophique et théologique sérieuse. Il n'y a pas assez lu. Alors, il y a des inexactitudes de langage dans ses livres. Il faut faire attention quand on les lit. Hein. On risque de croire à des choses qui sont fausses. Et surtout, il y a des passages bien pénibles. Mais l'ensemble est magnifique des œuvres de Carrel. En tout cas, la loyauté d'Alexis Carrel n'est pas en cause, et dont Alexis a déjà écrit, je l'entends encore me dire avec force, « Je veux croire !» Et je crois tout ce que l'Église catholique veut que nous croyons, et à cela je n'éprouve aucune difficulté, car je n'y rencontre aucune opposition réelle avec les données certaines de la science. Il avait compris. En somme, jamais le caractère inhumain de notre civilisation matérialisée n'avait été dénoncé, même par Bergson, avec l'énergie de Carrel. L'homme, en cette cité qu'on habite, ce monde mécanisé, orienté vers le gain et la jouissance, est malheureux. Et en niant la primauté de l'esprit, ben, notre civilisation s'est barbarisée, comme il le dit. Nous n'avançons pas, nous reculons. Et seul, à mon sens, au sens de Carrel, la vérité nous délivrera. Nous ne nous connaissons plus. C'est peut-être la faute de l'école, au fond, qui est devenue une machine à déformer. C'est aussi par la faute de la politique, d'une sociologie ignorante, des vraies valeurs spirituelles. Les maladies mentales, regardons autour de nous, sont bien plus nombreuses que toutes les autres maladies réunies. La religion du confort, qui est élargie par des nécessités artificielles qu'on se crée, ça aboutit à quoi? À avoir des esprits pauvres, tout petits. Si le marxisme conduit à la platitude, le capitalisme encore plus peut-être. En oubliant la nécessité de l'effort, en rêvant de gagner des millions d'un seul coup à la loto, nous poussons l'homme vers l'idiotie intellectuelle, comme dit Carrel, qui ne distingue plus le vrai du faux. L'idiotie intellectuelle qui ne distingue plus le vrai du faux. Et ce qui est pire encore, l'idiotie morale qui ne distingue plus le bien du mal. Hein? Or, le salut est-il possible? Oui, concluent les deux grands volumes de Carrel, L'homme, cet inconnu, puis Réflexion sur la conduite de la vie. Pour reconstruire l'homme, il faut utiliser les puissances du cœur et du sentiment. Il dit qu'il faut utiliser les religions et en particulier le christianisme, mais surtout les puissances de l'intelligence, la science. C'est une conclusion pour le moins prévue. Hein? Après le procès qu'il lui a fait à la science. Au vrai, il faut dire qu'Alexis Carrel, dans ses deux ouvrages, demeure prisonnier de la nouvelle idole de notre monde, la science expérimentale. Il continue de donner, à mon sens, trop d'importance à la science. Quand on pense que le mot « science » veut dire « savoir », or, qui sait le plus? Les saints, dont nous parlons ici tous les jours, Saint Jean de la Croix en particulier, et d'autre part, Saint Vincent de Paul, et le Saint Curé d'Ars, ce sont des saints dont je vous ai parlé, des émissions qui ont été très appréciées parce que ces saints sont merveilleux. Et quand on pense à tous les grands mystiques qui en savent beaucoup plus sur les grandes réalités, sur l'homme, sur Dieu, sur notre destinée, que n'importe quel physiologiste ou sociologue, même titulaire d'un prix Nobel. Son petit volume à Alexis Carrel, La prière, qu'il avait publié en 1944, ça marque une nouvelle étape dans son évolution spirituelle. Il est honteux de prier, assure Nietzsche. En fait, répond Carrel, il n'est pas plus honteux de prier que de boire ou de respirer. L'homme a besoin de Dieu, comme il a besoin d'eau et d'oxygène. l'influence de la prière sur l'esprit et le corps humain est aussi aisément démontrable que la sécrétion des glandes. Ses résultats se mesurent à un accroissement d'énergie physique, de vigueur intellectuelle, de force morale, à une compréhension plus profonde des réalités fondamentales. Quelle belle façon d'expliquer ce que c'est que la prière. La prière doit donc avoir une place de choix dans le sauvetage de notre civilisation. Il était nécessaire que ces choses-là soient dites par un grand savant. Mais pourtant, ici encore, Carrel demeure à mi-chemin de la vérité. Il a le droit de louer la prière du musulman, du bouddhiste. Mais l'esprit scientifique dont il se réclame voudrait qu'il se demande oui ou non. Existe-t-il une prière authentiquée par la révélation? Une prière qui doit se traduire par des actes, des pratiques concrètes dont l'Église, après l'Évangile, nous fait une loi. Relisez bien l'épître de Saint Jacques. Alors la réponse à ces problèmes, nous la trouvons dans le journal et les méditations qui sont annexés au voyage de Lourdes d'Alexis Carrel. Il nous révèle là un Carrel inconnu, inconnu même de ses amis, âgé de 65 ans, parvenu au sommet de sa carrière scientifique. Il est à peu près revenu au vrai credo, au vrai « je crois en Dieu » de son enfance. À peu près. Car il n'a pas encore compris, on peut dire, la nécessité de ce qu'on appelle encore la pratique religieuse. C'est dont Alexis Presse, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce cistercien qui écrit « La question religieuse lui tenait fort à cœur, il aimait en parler. Et de nos nombreuses conversations sur ce sujet, j'ai acquis la conviction que si sa vie religieuse pratique paraissait en certains points déficiente, il était cependant un de ces adorateurs de Dieu en esprit et en vérité dont parle notre Seigneur. De ses recherches scientifiques très poussées, il avait emporté pour la création une admiration enthousiaste, admiration qui se reportait sur le Créateur. Il avait de Dieu une idée sublime. Et dont Alexis Presse continue en disant « J'ai rarement rencontré âme plus pénétrée pratiquement de la pensée de la présence de Dieu, du respect de sa révérence, de l'adoration de Dieu. Il estimait véritablement par-dessus tout et le préférait à tout. » En octobre 1943, dont Alexis, dans son introduction au voyage de Lourdes, il écrit « Le docteur Carrel m'appela dans son île de Saint-Gildas et nous causâmes longuement. Il semblait prévoir sa mort prochaine. Il l'acceptait paisiblement. Non sans ajouter cependant, je souhaite que Dieu m'accorde encore 10 ans de travail. Avec ce que j'ai appris, ce que j'ai expérimenté, je crois que j'arriverai à établir scientifiquement les rapports objectifs du spirituel et du matériel, à montrer ainsi la véracité et la bienfaisance du christianisme. Dès lors, comment expliquer son illogisme à Alexis Carrel, hein? Comment, écrivait donc Alexis Presse, un homme si profondément religieux restait-il étranger à ce que nous appelons la pratique? Ce n'était pas par respect humain. Quand il était en France, bien, il assistait chaque dimanche à la messe, et quand je célébrais le Saint-Sacrifice dans sa chapelle de Saint-Gildas, il était toujours là. Je serais tenté de donner cette explication, après certaines déclarations qu'il m'a faites. Il avait si souvent constaté que la pratique, écoutez bien ça, la pratique chez beaucoup n'était que routine et formalité, que des gens très pratiquants n'étaient aucunement chrétiens, parce que pour eux, la pratique seule comptait. Pratique qui n'influait aucunement sur leur vie intérieure, qu'Alexis Carrel en était venu à n'attacher à cette pratique aucune importance. Quelle tristesse! Et Alexis Presse continue, il n'en voyait aucunement la nécessité. Pour lui, la religion n'était autre chose que cela. C'était l'adoration de Dieu en esprit et en vérité qui se l'importait. et comme pendant de longues années, les circonstances lui rendirent la pratique impossible moralement, ben, il a modelé autrement sa vie religieuse. Il en resta jusqu'à la fin de ses jours, où on lui fit comprendre qu'il y avait autre chose à faire. Et quand on l'avertit qu'il était temps de recevoir les derniers sacrements, ben, il s'est confessé, il a reçu l'Eucharistie, il a reçu l'extrême-onction. Ce qu'Alexis Carrel a fait avec la simplicité d'un enfant, a écrit Monseigneur à Maillon, qui lui a conféré ses sacrements. Et après avoir ainsi entièrement retrouvé la foi et la pratique de sa jeunesse, mais Alexis Carrel est mort à Paris le 4 novembre 1944, âgé de 71 ans. Selon sa volonté, il a été enseveli dans sa chapelle de Saint-Gildas, sous la garde des moines cisterciens, ses amis. Cette foi des humbles, Alexis Carrel, après la guérison miraculeuse de Marie Bailly, celle qu'il appelle dans son texte Marie Ferrand, l'a demandé à Dieu, il l'a demandé à la Sainte Vierge. En lui a été réalisée la parole de l'Évangile, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés ». Pour avoir connu et écouté cette fin, Alexis Carrel a été rassasié, et par surcroît, il est devenu un de nos maîtres. Le monde se meurt de ne pas voir Dieu. C'est cela que le message de Carrel nous redit. Déjà dans Réflexion sur la conduite de la vie, ouvrage, je vous l'ai dit, où il y a des erreurs qui voisinent encore avec les vérités, je vous mets en garde. Alexis Carrel écrivait sur la destinée humaine cette belle phrase, « La réponse de la foi est incomparablement plus satisfaisante que celle de la science. » Je la répète, elle est très importante. « La réponse de la foi est incomparablement plus satisfaisante que celle de la science. » Et sa mort, humblement, courageusement chrétienne, apportait à ses paroles un commentaire auprès duquel tout le reste est silence.